Le monde d'Ulysse avec Kevin Gilbert sur Radio Grand Ciel. Le numéro de ce mois-ci sera consacré à l'Athènes classique et à la guerre du Péloponnèse. Nous allons en fait parler à la fois de la ville d'Athènes, qu'est-ce qu'était Athènes durant cette période classique, dans cette période qui s'étend de 480 à 323 avant Jésus-Christ, et nous allons surtout nous intéresser à un personnage, c'est la figure emblématique de Périclès. Périclès qui a un impact aussi considérable dans l'Athènes actuelle, c'est une sorte de héros fondateur en partie de la démocratie athénienne qui est la première démocratie du monde. Donc cette époque classique, qui s'étend donc de 480 à 323 avant Jésus-Christ, c'est une période où l'architecture, la littérature, que ce soit de Sophocle ou d'Eschyle, correspond à une période d'émulation intellectuelle, c'est l'époque de la démocratie. Donc dans notre imaginaire, c'est un peu la période dite du miracle grec, où tout est possible, où tout est beau, tout est neuf. Mais c'est aussi une période, et ça on a un peu tendance à le cacher, ou du moins moins en parler, une période brutale, violente, qui est parcouru de guerre, de par son commencement, 480, c'est la fin des guerres avec les Perses, donc la seconde guerre médique, qui voit la victoire d'Athènes lors de la bataille navale de Salamine, sur la puissante flotte perse. Et c'est aussi la période de la guerre qui va mettre en émoi le monde grec, c'est la guerre du Péloponnèse, qui sera au cœur de cette émission, bien évidemment. Donc guerre du Péloponnèse qui va opposer la cité de Sparte à la cité d'Athènes. Donc deux modèles qui vont s'affronter, le modèle de la démocratie athénienne face au système de la double monarchie de Sparte. Donc à la fois une guerre militaire, mais aussi une guerre un petit peu d'idéologie. Pour percevoir cette période sous le prisme de la stratégie de Périclès, donc Périclès c'est un personnage qui appartient à l'aristocratie athénienne, hein, qui est né aux alentours de 494 avant Jésus-Christ et qui va décéder dans l'année 429 avant Jésus-Christ. Nous aurons l'occasion de revenir sur sa mort. Athènes est une démocratie qui se compose de citoyens. Mais bien qu'étant censés être tous égaux sur le plan politique, on va se rendre compte qu'à Athènes, les citoyens ne sont pas les seuls habitants de la ville. Athènes est composée de citoyens qui sont minoritaires, mais aussi de métèques. Alors, le nom de métèque n'a pas la même connotation péjorative qu'elle a ou qu'elle a pu avoir actuellement. Donc, le métèque, ce sont en fait tout simplement des résidents libres, mais qui viennent d'une autre cité. Donc, ce sont des étrangers, car je vous le rappelle, bien que la Grèce soit unifiée par sa langue, sa religion, un habitant d'une cité comme Argos, comme Milet ou comme Thèbes, aux yeux d'Athènes, sont considérés comme des étrangers. Et elle se compose aussi d'esclaves, esclaves qu'on trouve en très très grand nombre. Concernant ces institutions, Athènes est une démocratie directe, donc à la différence de notre démocratie à nous, qui est une démocratie représentative, démocratie directe, ce qui est le cas des petites cités. Donc la cité, ce qui va faire la communauté des citoyens. Donc une représentation directe, c'est-à-dire que c'est le citoyen en lui-même qui va être porteur d'un message devant l'assemblée en elle-même. Il ne va pas donc élire ses députés, ses représentants. C'est le citoyen lui-même qui va pouvoir s'exprimer dans l'assemblée. Donc la vie d'un citoyen au temps de Périclès est avant tout rurale, hein. Le grec est un paysan, donc Athènes est une cité rurale, une cité du monde paysan. Même si tous les citoyens n'ont pas accès à la terre, on a quelques grands propriétaires terriens. Alors là, quand je parle de grands propriétaires terriens, c'est environ maximum de son maximum 150 hectares. Donc on est bien loin de ce que connaître notre boss adoré en termes de superficie d'exploitation agricole. Donc 150 hectares grand maximum. Mais c'est aussi une cité à caractère rural, mais qui parfois peut être considérée comme plus urbaine que les autres cités, puisque un individu qui possède une terre ne va pas y résider directement. Il va vivre en ville pour aller travailler dans sa terre. Entre citoyens, je vous l'ai expliqué, il y a une stricte égalité, en théorie, même si nous avons une classe sociale qu'on appelle les têtes, c'est-à-dire la catégorie la plus pauvre, qui n'a pas accès à tous les privilèges que la citoyenneté peut accorder, du moins avant l'intervention de Périclès, ce que nous allons voir un peu plus tard. Donc on a une sorte d'égalité politique, Mais en tout cas, pas d'égalité économique entre les citoyens, ça c'est clair et net. Nous avons aussi une forme d'aristocratie, hein. Ce sont donc des familles prestigieuses qui descendent de certains ancêtres prestigieux, hein, comme notamment une dynastie fameuse, une famille assez connue, celle des Alcméonides, qui est la famille maternelle de Périclès, donc une famille très très célèbre, très très ancienne de la ville d'Athènes. Et sous Périclès, on va avoir donc un élargissement de ce corps politique où chaque voix va pouvoir compter et surtout être identique. Donc Périclès, certes, n'est pas l'inventeur de la démocratie athénienne, mais en tout cas, il va en poser les fondements qui vont faire son succès. Donc la population des habitants, la population d'Athènes, dans quoi est-ce qu'elle vit, hein? C'est un moyen aussi de bien comprendre quelle est cette société, c'est d'observer bah, son lieu de vie. Donc ce sont avant tout de petites maisons, la plupart vivent dans de petites maisons, de 2-3 pièces, hein, grand maximum. On a quelques maisons plus importantes, mais au 5e siècle, ce n'est pas par la maison, le lieu privé, le lieu domestique, qu'on peut se rendre compte de la richesse d'un personnage et surtout de sa puissance. En tout cas, pas avant le 4e, milieu du 4e siècle avant. Puisque le faste est vraiment réservé aux monuments publics et plus précisément aux temples, donc aux bâtiments religieux. Aucun bâtiment privé ne fait preuve d'un certain luxe. Et pourquoi réserver ce luxe et ce faste au temple, donc au monde religieux, au bâtiment religieux? Parce que Athènes, c'est une démocratie qu'on pourrait qualifier de festive, puisqu'on a environ 100 jours dans l'année, donc à peu près un tiers de l'année qui va être consacré à la fête. Donc bien évidemment, toutes ces fêtes n'ont pas la même importance, ni la même renommée, mais en tout cas, lors d'une fête à Athènes, c'est le moyen pour les citoyens de se retrouver et justement de faire corps et de créer un sentiment d'appartenance à une même communauté. Donc on a certaines grandes fêtes, donc par exemple celle des Dionysies où avaient lieu les représentations théâtrales qui avaient lieu donc dans le théâtre de Dionysos qu'on trouve sur le flanc de la colline donc de l'Acropole pour ceux qui ont la chance de connaître la ville d'Athènes. Donc l'Acropole là où se trouve le grand sanctuaire d'Athéna Parthénos, c'est justement la fête des Panathénées, qui est la fête la plus importante, vraiment la fête qui pourrait correspondre à notre 14 juillet à nous, c'est vraiment la fête d'Athènes par excellence, puisque c'est la fête d'Athéna Parthénos, sa divinité Polyade. Donc dans ces grands moments-là, la cité est totalement mobilisée, comme si un petit peu le temps s'arrêtait, et on festoie, on banquette, et on participe, chaque citoyen participe aux événements religieux, notamment aux sacrifices. Et donc c'est le moyen de créer du lien, du corps entre les citoyens. Et justement, ce qui nous amène à la notion de fête et de banquet nous montre aussi que le rôle du banquet n'est pas réservé à tous. Tout le monde ne pratique pas ce qu'on appelle le banquet. Alors le banquet, qu'est-ce que c'est? C'est bien évidemment un repas, mais où la consommation de nourriture va être secondaire. Ce qui va primer, ça va être la consommation de l'alcool, notamment celle du vin. Et ce qui va différencier le grec du barbare, ça va être justement la manière de consommer le vin. Alors, pour se rendre compte, le vin de l'époque, hein, le vin que l'on laisse bien mûrir sous le soleil du mois d'août en Grèce, va taper un peu plus de 20 degrés, d'où l'intérêt de le couper avec de l'eau. Donc, un individu qui coupe son vin est quelqu'un de civilisé aux yeux des Grecs, tous les Grecs le font, alors que quelqu'un qui ne va pas couper son vin, qui va le boire pur, est un barbare. Et bien évidemment, un certain nombre d'esclaves vont servir lors de ces fêtes. Concernant la population de l'Attique, de la région d'Athènes, on estime que c'est une population qui atteint les 300-350 000 habitants, dont 40 à 50 000 citoyens. Donc les citoyens athéniens sont vraiment minoritaires dans cette Attique du 5e siècle. Les autres groupes dont nous avons parlé, c'est-à-dire les métèques et les esclaves, donc les esclaves représentent plus d'un tiers de la population. Mais bien qu'étant en grand nombre, les esclaves ne sont jamais rebellés. On n'a pas connu à Athènes de grandes révoltes serviles, comme on a pu en connaître Rome, notamment à celle de Spartacus. Car il y a plusieurs phénomènes d'explication, hein, car de par la disparité de ces esclaves, hein, qui sont pour la plupart un ou deux, pas plus, hein, par endroit où ils travaillent, sauf excepté dans les mines, notamment les mines d'argent du Lorient, et aussi par leur diversité dans l'origine ethnique, ce qui empêchait toute cohésion et donc tout moyen de comploter contre les maîtres. Donc la journée type d'un citoyen athénien, comment est-ce que ça se passe? Eh bien, quatre fois par mois, Alors très très tôt le matin, hein, certains citoyens qui sont à l'autre bout de l'Attique parcourent notamment jusqu'à 40 km. Hein, 40 km, c'est le cas notamment de donc, la distance entre qui sépare Athènes de Marathon. Eh bien, 42 km pour être plus précis. Eh bien, on se lève très tôt pour partir et se rendre donc sur la colline sur la Pnyx, là où avait lieu l'assemblée. Et les 6 000 premiers citoyens à arriver recevaient un tesson, donc un petit morceau de céramique, qui permettait d'être payé, c'est-à-dire qu'on subventionnait l'activité civique. Donc c'était pour inciter les plus pauvres à participer donc à la vie citoyenne et prendre une part essentielle à la vie politique de la cité. Et cette mesure participative, bon, on subventionnait pardon l'activité civique et politique des citoyens les plus pauvres, notamment donc des têtes, bah, c'est une proposition mise en place par justement Périclès. Ensuite, on pratiquait un sacrifice, hein, parce que le monde politique et le monde religieux sont étroitement liés. Et ensuite, un héros parlait, donc un héros, je pense à Superman, je pense un héros à UT, parle et propose donc aux citoyens les plus âgés, donc qui vont s'exprimer en premier, et ensuite la parole est libre. Puis dans un second temps, donc cette assemblée s'attaque à l'ordre du jour fixé par le conseil. Alors le conseil, c'est ce qu'on appelle les boulottes, qui sont au nombre de 500, qui sont tirés au sort pour une année. Donc tous ces règlements ont été mis en place par une série de législations. Donc Athènes a connu aux alentours du 6e siècle un certain nombre de grands législateurs, notamment Dracon, Solon et enfin Clisthène. Clisthène qui justement est celui qui a mis en place sur les rails cette démocratie athénienne et que Périclès a en quelque sorte perfectionné. Ensuite, on a un certain aussi Éphialte, juste avant Périclès, qui a notamment limité le pouvoir de certains conseillers. Je pense notamment au conseil de l'Aréopage, qui était composé d'anciens archontes. Alors, ces conseillers, en fait, recevaient cette fonction non pas pour une année, mais jusqu'à leur mort. Hein, donc, c'était une sorte de magistrature exercée jusqu'à sa mort. Pour revenir à la personnalité centrale de cette émission, Périclès, son rôle, certes important, mais pourrait être, par certains aspects, amoindri, que les sources anciennes ne nous le racontent ou ne veulent bien nous le raconter. En tout cas, il a permis le développement de cette démocratie, donc avec la rétribution, que j'ai expliquée, tantôt. Mais en fait, le paradoxe, c'est que dans une société démocratique, on va voir, telle qu'Athènes, hein, l'était, on aura tendance à mettre en avant un personnage. Alors que l'hypothèse qui est en train de se développer dans la tête et dans les ouvrages de certains historiens, c'est qu'en fait, on aurait attribué à Périclès toute une série de mesures visant à soutenir les populations les plus pauvres des citoyens d'Athènes. Et en fait, ce serait pas seulement Périclès, mais une série de plusieurs personnes, et on aurait attribué à Périclès toutes ces actions. Donc son rôle peut être amoindri, et Périclès serait une figure certes importante, mais du moins dans l'action pourrait être remise en cause. Donc avec ses rétributions, il a donc permis dans tous les cas l'accès et l'accès à cette population des têtes à la vie démocratique de la cité. Donc Périclès est certes connu pour son action et son développement de la démocratie athénienne, mais il est surtout connu car il s'est retrouvé à la tête d'Athènes lors d'un moment critique pour elle, c'est-à-dire la guerre du Péloponnèse. Vous êtes bien sur Radio Grand Ciel et vous écoutez Le Monde d'Ulysse, où ce mois-ci nous nous intéressons à Athènes et plus particulièrement à l'Athènes classique, donc l'Athènes classique qui a connu un événement majeur et qui va aussi provoquer la chute de la cité qui nous intéresse à Athènes, c'est-à-dire la guerre du Péloponnèse. Concernant les origines de cette guerre, il n'y en a pas une seule, donc pour un conflit de cette importance, les causes sont multiples et bien profondes. On a ce qu'on appelle une partie des causes qu'on pourrait dire indirectes, puisqu'en fait, il faut comprendre que Athènes, au lendemain des guerres médiques, donc au lendemain des guerres qui vont l'opposer aux Perses, va prendre une importance considérable et se retrouver à la tête d'une véritable thalassocratie, d'un véritable empire, et elle va fonder donc en 478, soit 2 ans après les guerres médiques, la Ligue de Délos. Et face à cet impérialisme athénien, face à cette expansion de la puissance athénienne dans le monde grec, les Spartiates, donc la puissance militaire qui domine la Grèce à cette époque, va réagir et fonder, elle, à son tour, la Ligue du Péloponnèse. Donc on a une sorte d'un point de temps de guerre froide entre donc deux blocs qui vont se regarder, se jauger, et parfois s'affronter indirectement au travers de leurs alliés. Mais aux alentours des années 430 avant Jésus-Christ, donc la guerre du Péloponnèse en elle-même va démarrer en 431. Mais un petit peu avant, on a toute une suite d'affaires qui vont impliquer les alliés des deux cités. Et on peut citer quelques-unes d'entre elles. On a par exemple l'affaire d'Épidame ou l'affaire de Potidée, ou enfin l'affaire de Mégare, que je vais développer un petit peu. Donc en fait, Mégare, c'est une cité donc, qui situe aux portes de l'Attique, donc très très près de l'Attique. Et ses habitants se vont interdire donc, l'accès à la région de l'Attique. Et donc au Pirée, donc le port du Pirée qui permettait à la cité de Mégare de se ravitailler. Donc Athènes reproche en effet à Mégare d'accueillir des esclaves fugitifs, donc qui fuyaient Athènes, et de soutenir un adversaire athénien qui était la cité de Corinthe. Donc cité de Corinthe située aux portes du Péloponnèse. Et donc cité de Corinthe, membre de la Ligue du Péloponnèse, proteste et va demander un soutien auprès de Sparte. Et cette guerre donc, qui était latente, hein, qui était, on pourrait dire, froide dans un premier temps, va vraiment éclater en 431. Et donc, deux stratégies, là, pour le coup, vont vraiment s'opposer. Et Périclès, donc personnage central de notre émission d'aujourd'hui, va jouer un rôle considérable et va permettre à Athènes, non pas d'avoir un dessus, mais en tout cas de résister à la puissance militaire de Sparte dans un premier temps. Et cette stratégie de Périclès que je vais développer dans quelques instants va user les nerfs des Spartiates, certes, mais aussi des Athéniens. Périclès va occuper la fonction de stratège à Athènes, c'est-à-dire qu'il va s'occuper des questions militaires en partie, et lui va refuser l'affrontement en bataille rangée, l'affrontement direct contre la puissante cité de Lacédémone, donc la cité de Sparte. Son idée de base, c'est au moment où les troupes lacédémoniennes donc de Sparte pénètrent sur le territoire de l'Attique, hein, donc en franchissant notamment l'isthme de Corinthe, donc en Attique territoire d'Athènes, et ben pour y dévaster les récoltes, et bien les Athéniens se retirent derrière leurs murailles, leurs murs, puisqu'ils sont protégés donc à la fois par leur puissante flotte, qui est une puissance navale qui va dominer la mer Égée, ainsi que par ce qu'on appelle les longs murs. Alors les longs murs, c'est une série de murailles qui relient Athènes au port du Pirée. Et bien que le territoire de l'Attique soit ravagé, la subsistance principale des Athéniens ne vient pas de leur propre région, mais en fait du littoral de la mer Noire. Et c'est donc par le port du Pirée, qui est en liaison donc, avec cet espace riche en blé, que les Athéniens vont pouvoir subvenir à leurs besoins. Donc cette guerre met en mouvement, va vraiment toucher toute la Grèce, hein, donc, car Athènes et Sparte, comme on l'a dit précédemment, ont des alliés. Athènes peut mobiliser en termes de troupes environ 15 000 hoplites, un peu plus de 15 000 hoplites, donc c'est fantassins lourdement armés, sans compter les troupes de leurs alliés. Donc on estime que la puissance de la Ligue de Délos, c'est aux alentours de 20 000 hommes. Quant à Sparte, elle-même peut mobiliser entre 9 et 15 000 hoplites, donc on est à peu près dans les mêmes effectifs. Hein. Mais toutes les forces ne seront jamais pleinement engagées, on n'aura jamais une bataille en 10 000 hoplites contre 10 000 hoplites, ce sera des affrontements beaucoup plus restreints, et dans les sources, lors de certaines batailles, lorsqu'on aura un millier de morts, ou même 200 morts, ce sera considérable. Et ce qui va expliquer aussi la durée de ce conflit, c'est que le refus d'affrontement direct va plutôt se transformer en bataille donc, d'escarmouche. Donc cette guerre du Péloponnèse qui se déroule de 431 avant Jésus-Christ en 404 peut être divisée en trois phases. Donc la première phase 431-421 avant Jésus-Christ, donc la période dite archidamique, du nom de Archidamos II, donc le roi de Sparte, ou aussi parfois appelée la guerre de 10 ans. Donc c'est là où vont s'opposer donc les deux stratégies, donc celle de Périclès et celle donc de ce roi. Donc à chaque fois, c'est des guerres de razzia, où chaque troupe va pénétrer le territoire de l'autre pour aller ravager notamment les récoltes. Alors, Athènes va refuser, donc, comme je l'ai dit précédemment, l'affrontement direct, c'est-à-dire que quand les troupes spartiates vont arriver pour ravager l'Attique, Athènes va se réfugier derrière ses murs. Mais Athènes va aussi réagir, puisque dès les beaux jours, hein, elle va pratiquer la razzia sur les côtes péloponnésiennes, non pas par terre, mais par mer. C'est-à-dire que les Athéniens vont débarquer dans le Péloponnèse, ravager, commettre des razzias, et repartir tout de suite. Donc cette phase s'arrête en 421, avec la paix qui va être signée entre les deux puissances, donc qu'on appelle la paix de Nicias, donc du nom du stratège athénien qui a mis en place cette paix. Mais c'est pas une paix totale, ça va être une guerre latente, ça va être des conflits qui vont opposer là, les alliés des deux cités entre elles. Mais cette guerre va reprendre avec l'expédition de Sicile menée par Athènes. C'est donc la guerre qu'on appelle donc de Décélie, du nom d'une place forte de l'Attique, et se déroulera aux alentours des années 415-412 jusqu'en 404, et qui verra l'année, justement, année 404, année de la défaite et de la capitulation d'Athènes. Donc durant cette phase, Sparte va prendre le dessus, hein, en effet, puisque cette guerre va commencer par une déconvenue pour Athènes. Elle va se lancer dans une expédition contre la puissante cité sicilienne de Syracuse, avec à sa tête un général un peu flamboyant, un peu flambeur même, qui est du nom d'Alcibiade, qui est un personnage tout à fait intéressant, puisqu'il va retourner sa veste à plusieurs reprises. Il sera tantôt général pour Athènes, tantôt espion pour Sparte. Et au final, il va rejoindre sa mère patrie, Athènes. Donc c'est un personnage vraiment digne d'un roman. Et donc il va être à la tête de cette expédition. Expédition qui va se solder par une défaite pour Athènes. Et à partir de là, Athènes va voir son territoire, l'Attique, occupé par Sparte, notamment donc sur la place forte de Décélie. Et à partir de ce moment, Sparte exerce un véritable blocus terrestre. Et il ne manque plus qu'un blocus maritime. Et étonnamment, Sparte va réussir à défaire la puissance maritime d'Athènes et finalement raser les longs murs du Pirée, longs murs du Pirée. Et donc à partir de ce moment-là, qui dit plus long mur du Pirée dit plus de ravitaillement pour Athènes. Et donc Athènes va être obligée de capituler. Mais la question qu'on peut se poser, c'est alors que tout était favorable de par la mise en place de la stratégie de Périclès, eh bien comment Athènes a pu perdre cette guerre? Donc d'après Thucydide, historien de l'Antiquité qui nous raconte qui est une principale source de la guerre du Péloponnèse, Athènes a perdu la guerre pour une raison simple, c'est qu'elle aurait connu ce qu'on appelle la démesure. Donc dans les faits, hein, il y a deux grandes causes qui vont expliquer cette défaite. Premièrement, c'est la tactique de Périclès. La tactique de Périclès, en fait, quand on observe bien les sources, eh bien les paysans voient les ravages de Sparte sur leurs propres terres, sont sur les routes, se rassemblent, s'entassent dans la ville, et ça exaspère la population, le moral des Athéniens va être miné. Et la deuxième explication, et pas des moindres, c'est l'épidémie de 429. Rappelez-vous de cette année, 429, c'est l'année de la mort de Périclès. Effectivement, Athènes va être frappée d'une très dure épidémie, et parce qu'on a une concentration de population très importante, à cause de la tactique, ou plutôt grâce à la tactique de Périclès, la maladie va très vite se répandre. À cause de cette concentration de population, il y aura vraiment des cadavres qui vont joncher les rues, et parmi ces victimes, Périclès lui-même. Donc Athènes va perdre son principal stratège, et par extension, sa stratégie. Et du moment où Athènes va entrer en conflit direct avec Sparte, ceci va lui être fatal. Et Athènes va donc connaître, à partir de ce moment-là, un long déclin qui se terminera par l'occupation en partie de l'Attique par Sparte, sa principale rivale, Puis, un peu plus tard, Athènes perdra son autonomie à cause d'un certain Philippe II de Macédoine, le père d'un non moins célèbre Alexandre le Grand.
Θέλω δεκάδμων άδει. Αβάρβητος δε χορδές, έρωτα μόνον ηχή. Ήνυψαν νεύρα πρώην και την λύρη νάπασαν. Καγούμεν είδον άθλους Ηρακλέους, λύρη δέρωτα σαν δε φόνη. Χαίρετε λοιπόν οι μην ήρωες, η λύρη γάρ μόνους έρωτα σαν.